Ça y est, j'ai réinstallé l'enregistreur sur le deuxième PC. Donc on y va, merci du sport pour cette programmation. Le ton, ça faisait super longtemps. Joli dragon, où es-tu?
Ah, comment allez-vous? Alors chers amis, vous écoutez bien sûr Radio FMR. Nous sommes le samedi 1er juin 2013. Nos programmes pour cet après-midi à 13h, du sport bien sûr, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Jan Ted. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le magazine Jay-Z que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Ah, c'est toi qui l'as dit.
Putain, merde, il m'embrouille.
Est-ce qu'un truc sur la quadrature du net a intéressé?
Oh là 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 là
là là là là là là là là là
là là là là là là là là là là là là là là. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Daspritch. Et la participation exceptionnelle de JB.
Non, non, même pas. Il y a Morgan qui est là, il oui. Y a une facette gomme qui est là. Il y a du sport qui est là, il n'y a pas Thomas d'ailleurs.
Non, mais si tu nous écoutes Thomas, ouais. On pense à toi.
Non. C'est, à mon sens, excuse-moi, pardon, c'était l'autre micro que j'attendais. À mon sens, c'était une plaisanterie d'ailleurs, je le crois absolument pas sur l'idée qu'on puisse partir en vacances.
Je ne connais pas ce
à
concept.
À la plage.
À la plage, en ce moment.
Un 1er juin, non.
Non, c'est pas possible.
Non. Printemps français, printemps poisy. Tout le monde le sait.
Mais ah, vu la Garonne.
Ouais. L'introduction, ce que vous avez entendu, ça c'était la partie hors antenne, c'est-à-dire ce qui n'a été audible que par les auditeurs du podcast du Supplément Week-end, donc lors de l'interview de Jérémy Zimmermann, cofondateur de la Quadrature du Net. Il a décidé de me troller, c'était trop gentil, il ne fallait pas, mais c'était très amusant, en tout cas ça faisait un bail hein, en fait qu'on se troll sur internet, et donc il fallait qu'on se rencontre, il fallait qu'on parle d'une manière posée, et ma foi c'était tout aussi intéressant. Je pense qu'il y en a qui ont dû regretter de ne pas être présents à cette...
Ça va. Mais j'étais dans ce fameux concept de vacances, tu sais. Voilà, je testais un petit peu.
J'ai entendu dire que tu étais du côté d'une feria dans le Gers.
Oui, tout à fait. Je suis allé rencontrer nos amis gersois à Vic-Fezensac. Et ma foi, ils ont des coutumes assez locales, originales. Voilà, donc... Le soir, voilà, tout le monde est habillé de la même façon, sort, crie.
Tu sais qui nous troll, Thomas? Il vient de tweeter une photo.
Thomas,
il a quand même une météo de, il a une météo digne de la Bretagne. Bref.
Et bah s'il va pour bronzer, il chopera
ouais,
la photo.
Bah voilà, moi l'an dernier, moi la semaine dernière, voilà, c'était un petit badge. Il y avait juste six petits trucs à souder, tu vois, une pile,
oui,
une diode.
C'est très radiophonique ce que tu nous fais.
Et juste un badge et la diode clignote dans plein de couleurs parce que en fait, maintenant le micro-circuit est dans la diode.
Waouh.
Et surtout, ils nous avaient annoncé que ça durait 2 jours.
Ouais.
Bon, ça vient de mourir là en venant.
Ah oui, c'est costaud.
Ah oui, tout à fait.
Et pourtant, moi j'ai fait une balade à Paris, j'ai fait.
Chers auditeurs, je pense que là vous êtes ravis d'apprendre ça. Je pense que là, on vient de perdre la moitié des auditeurs. Oh, mais, non, mais on va les récupérer.
Il
grâce...
faut pas dire ça, parce que dans 15 jours, c'est les. On fait un anniversaire.
Tout pour... à fait.
Enfin, un pseudo anniversaire de la radio. On fait une petite fête. C'est au Mixar Miris. Il y aura de la fanfare de filles, du truc jazz, du punk, de la peinture à base de canons. Bref, c'est tout et n'importe quoi. Ce sera toujours au Mixar Miris d'ailleurs.
Et ouais.
On sera en direct, seulement nous.
Très beau flyer.
On est face à un gros dilemme.
Ouais.
Parce que quand même, on nous a proposé d'aller dans l'espace.
In the space.
Vers l'infini et l'au-delà. Allez.
Plus exactement, dans le centre de contrôle du vaisseau ravitailleur de la station spatiale orbitale qui est à 380 km au-dessus de nous. On nous a proposé de faire un direct. C'est en cours de câble, d'arrangement et tout ça. Je n'ai pas trop pu m'en occuper parce que là, j'étais un peu dans le speed. Bref, du sport. Ça va être un programme space.
Ouais, comme d'habitude.
Mais pas de bedo.
Pas comme d'habitude. Non, mais ça peut être horrible. Super intéressant, ouais.
Horrible. Non, pour le coup, là, ça peut vraiment être fun pour aller interviewer justement des techniciens, des scientifiques, voir un peu tout ça de l'intérieur, et y mettre notre zone, entre guillemets. Ouais. Ma foi, ça, c'est une belle
space.
Invitation ouais, qu'on a.
On mettra un écho sur la voix, tu vois, un truc un peu sympa.
Non, le truc d'avantage, c'est qu'on pourra tester, tu sais, les...
On a un problème.
On va pouvoir tester la bouffe déshydratée.
Oui,
aussi.
Tout à fait. Ça fera du flunch quoi.
Voilà.
Mais pourquoi pas, hein, je suis ouvert à toute nouvelle.
Bah après,
forme
l'important
de...
c'est qu'on décolle pas, qu'on ne coûte pas dans la navette quand même.
S'il vous plaît. Je sais déjà quelle programmation musicale je vais passer. Il y aura une reprise à mon avis de David Bowie qui sera diffusée. Du sport, lui, il est mort de rire. Il sait déjà de laquelle il s'agit. Puisque c'est un des pensionnaires canadiens actuellement, la station spatiale, qui a enregistré. J'ai oublié le nom du morceau, c'était.
Il a rigolé, mais...
Ground Control to Major Tom.
J'ai oublié le nom.
Life on Mars.
Et donc, ils ont enregistré.
Oui, c'est ça en fait.
Ils ont enregistré une partie des
instrus dessus, mais.
Ils ont enregistré une partie des instrus sur Terre, mais une autre partie de l'instru, notamment la guitare et le chant,
tous
sont
les instruments
enregistrés
avant.
Dans l'espace.
C'est tellement mieux dans l'espace, hein? Un petit instrument avant, une petite flûte, une petite trompette. Attends, c'est génial, t'imagines? C'est fantastique.
La mort rouge au
lieu. C'est sur ces questions d'air conditionné que
je pense qu'on a
atteint le fond. Alors que quand même, on a.
Attends, je continue à creuser si tu veux.
Non, mais je crois qu'il n'y en a pas besoin. On fête le départ d'un très grand voyageur, à savoir Jack Vance, qui nous a quitté à l'âge de 96 ans. Vraiment un très grand de la fantasy, du space opéra et de la science-fiction, mais aussi du polar. Jack Vance était né en 1916 à San Francisco et donc nous a quitté lundi dernier. C'est un auteur principalement de science-fiction, soit il a écrit sous son nom propre bien sûr, mais aussi sous plein de pseudos: Peter Hild, John Holbrook, John Vancey, Alan Wade, et aussi il a écrit sous le pseudo collectif Ellery Queen, ce qui doit dire quelque chose.
Oui.
Puisque c'est des romans qui racontent soi-disant une autobiographie, mais en fait c'est un panel d'auteurs qui sont derrière, et lui il a participé à l'écriture de trois de ses romans à la fin des années 60, au moment où il était vraiment à fond.
Ouais, c'est Ellery Queen a été l'un des auteurs de ce qu'on appelait dans le temps les pulp, c'est-à-dire il pissait de la copie à fond les manettes, quoi, de telle manière à pouvoir alimenter dans les années 20, et certains auteurs justement ont décidé de prolonger ce truc, ou de faire un relaunch dans les années 50-60 justement, quoi, en gardant justement quoi ce nom générique. Ellery Queen, on peut les trouver encore dans la collection française Le Masque,
et je crois même que ça a été adapté au cinéma d'ailleurs. La bio de Jack Vance en soi même, c'est un roman. Il a été charpentier, il a été chroniqueur de jazz au début des années 40, il a été céramiste. Il fut aussi électricien dans un port, celui de Pearl Harbor, en 1941. Il est parti même pas un mois avant l'attaque.
Bonne pioche.
Ouais. Et ne pouvant être militaire pour cause de mauvaise vue, il s'est engagé dans la marine marchande en 1942. faut quand même passer un test de vue. Qu'est-ce que vous croyez qu'il a fait, le bonhomme? Bah, il a appris par cœur la charte la charte optique, exactement.
FLOPQ.
Oui, mais c'est ça. C'est une anecdote très connue de Jack Vance. Ouais. C'est pas impossible justement que ça soit un gros clin d'œil de ce côté-là. Et la marine va devenir une composante essentielle de sa vie dès sa première nouvelle, The World Thinker, publiée en 1945 dans Thrilling Wonder Stories. Il fut aussi scénariste de Captain Video. C'est l'une des premières séries télé qui a été faite entre 1949 et 1955 sur un réseau qui a très vite disparu, qui était DuMont. Donc c'était un réseau qui était en concurrence avec les trois autres chaînes aux États-Unis et qui lui n'a pas survécu. Et outre la thématique du voyage, Jack Vance est surtout connu pour avoir un humour assez grinçant et violent. Kugel, l'anti-héros, aventurier égocentrique et cynique, apparu en 1950 dans Un monde magique, qui est donc le héros du cycle de la Terre mourante. Il a aussi écrit La geste des princes démons, qui est une traque qui se déroule dans une succession de planètes. C'est là où il développe vraiment sa thématique de space opéra. C'est on rencontre plein de monstres, on rencontre plein de cultures, et finalement on confronte la culture humaine face à celle des autres. Bah, en fait, c'est ni plus ni moins que ce qu'il a vécu lui-même en bourlinguant à travers la planète. Le cycle de Tchaïk raconte en 4 volumes l'errance d'un humain échoué sur une planète dont il ignore tous les codes. C'est une histoire qui est vraiment considérée comme son classique absolu.
Ouais, c'est le classique.
Hein. Maintes fois analysé. Mmh. C'est vraiment un énorme bonheur à lire. Il a, si vous n'avez pas forcément envie de lire des bouquins sans images, eh ben, il a été adapté en bande dessinée par Jean-David Morvan. Eliane en 8 tomes chez Delcourt. C'est pas n'importe qui, hein, quand même. C'est franchement un grand dessinateur. Et Morvan, un scénariste que l'on apprécie beaucoup. On doit aussi citer d'autres cycles comme les Chroniques de Durdan, Lyonnais et plein d'autres romans, de la fantasy aux policiers, des nouvelles que je n'ai pas lues, donc je n'en parlerai pas puisqu'il a eu vraiment une écriture extrêmement prolifique, surtout principalement de 1955 à 1980, 82, 83, où il est devenu officiellement aveugle. C'est-à-dire il a une vue tellement basse que il ne pouvait plus voir. Et en fait, il a continué à travailler à partir de là grâce à un logiciel de synthèse et de reconnaissance vocale qui lui a été spécialement conçu pour lui par des amis. Maintes fois adapté, souvent cité par ses pairs dans ses propres romans, Jack Vance est à mon sens un écrivain malheureusement méconnu de science-fiction qui a pourtant fait à peu près autant pour le genre qu'Isaac Asimov. Ainsi, le cycle de la Terre mourante sera directement cité dans la première édition du jeu de rôle original Dungeons & Dragons. C'est de là que vient l'idée qu'un magicien, quand il apprend un sort, quand il utilise le sort, il l'oublie immédiatement.
C'est un poisson rouge, le gars, quoi.
Ouais, tout à fait. C'était un amateur de jazz, c'était aussi un joueur d'harmonica plutôt reconnu et occasionnellement de banjo. Insatiable, il a passé avec sa femme de nombreuses années en voyage permanent. Et de ce côté-là, c'est un auteur qui malheureusement est peut-être trop peu connu, qui a été adapté souvent sans que les gens le sachent vraiment. C'est peut-être l'occasion pour lire ses livres, ses romans. Jack Vance donc nous a quittés à l'âge de 96 ans. Il a quand même bien profité de sa vie. Tant mieux pour lui. ça m'apprendra, voilà. C'est comme j'ai une réinstall absolument fraîche et que de PC, je n'arrive pas à trouver le bon fond sonore. Ils fêtent leur 6 ans ce soir.
No life!
Voilà, bon.
Ça c'est fait.
Ça c'est fait.
No life!
Je passe juste cette reprise parce que j'avais prévu un autre morceau, mais celui-ci me fait bien rire. Non, je vais le couper. Je vais plutôt passer l'un des morceaux qui est très peu connu en fait.
Quoi ?
Parce qu'ils ont des ils ont une web série actuellement qui cartonne qui s'appelle Noob, qui fait une levée de fonds absolument spectaculaire. Ils sont 2 millions d'euros quand même, ils y croyaient absolument pas. Et c'est la preuve, voilà, que quand c'est fait par les fans, ouais. Ça attire un public qui est prêt à y mettre vraiment plus de sous plutôt que surfacturer les films parce que c'est de la 3D et tout. Là, c'est Dark Angel en duo avec Caroline Over the Top. C'est extrait de la série Nerds. Et moi, je trouve que c'est une très très belle chanson, voilà, pour le fun.
Sur le canapé mode solo. Le monde, je l'ai sauvé, bébé. Mercenaire, renard, desperado, seul face à l'imprévu programmé. C'est un job à plein temps. Je fais pas ça pour les remerciements. Je fais ça pour être dans les high scores. Je laisse une empreinte au fond du slip de la mort. Mes ennemis ont peur que ma colère gronde. J'ai de la corne aux doigts, force de sauver le monde. Et voici un nouveau challenger. T'as déboulé dans ma vie comme un bulldozer. Toi et moi, on est over the top. Depuis qu'on est passé en mode coop. Oui, toi et moi, over the top. Je l'ai rejeté, bébé. J'esquive mettre au boulot dodo avec ma manette seule sur le canapé. Les seuls qui me consolent, mes seuls amis sont ma PlayStation, ma Xbox, ma Dreamcast et ma Wii.
Et moi alors ?
Sans oublier Régis Robert aussi. T'es venu, t'as pris la deuxième manette de mon cœur. Ma vie a accepté un deuxième player. Et voici un nouveau challenger. T'as déboulé dans ma vie comme un bulldozer. Toi et moi, on est over the top. Depuis qu'on est passé en mode coop. Oui, toi et moi, over the top. Ciel bleu pixelisé, t'es la princesse à sauver le boss final de mes parties. Je vais prendre un champignon pour te faire gueuler toute la nuit. Car voici un nouveau challenger. T'as déboulé dans ma vie comme un bulldozer. C'est en mode coop. Oui, toi et moi, on va se taper. Toi et moi, on est en vase de top. Depuis qu'on est passé en mode coop. Oui, toi et moi, on va se taper. On est en vase de top.
Avec les Fatal Picard, c'est nettement mieux. Donc ce soir, en plus, ils font un direct. Ouais. Comme si un direct, c'était franchement exceptionnel pour nous.
Ben, attends,
tiens, par exemple, moi, je prends quelqu'un au dépourvu.
Ah, j'aime cette musique.
Et voilà.
J'aime bien la laisser un petit peu. Chers auditeurs, bienvenue dans le courrier des audilecteurs. Alors aujourd'hui et même cette semaine, nous avons de nombreux courriers. Car la semaine dernière, il n'y avait pas de courrier des audilecteurs et j'en suis fort désolé, mais j'ai pensé à vous très fort.
Je crois pas qu'il y avait d'émission depuis...
depuis quelques temps, hein.
Début du mois.
Alors cette semaine, dans le courrier des audilecteurs, nous avons cette charmante personne qui nous a écrit, qui nous dit « La semaine dernière, alors que je manifestais tranquillement dans la rue contre le mariage homosexuel, une bombe lacrymo m'a surpris et m'irrita les yeux. Depuis, je vois très mal et je ne parviens plus à lire mes BD et livres favoris, dont surtout la Bible. Sauriez-vous si ce genre d'œuvre est adapté en cassette audio? Sinon, pourriez-vous me faire la lecture de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 16, s'il vous plaît? Je monte un petit peu le son, là. J'ai mis la radio pour que mes fidèles vous entendent. C'est signé l'ABCDR.
Oh.
Alors, je pense pas qu'on ait la Bible dans le coin ou de... Est-ce qu'il y a des mangas adaptés en cassette pour les... Comment ça marche pour les
Bible,
personnes aveugles?
La Bible est éditée, de toute façon, aux États-Unis.
Est-ce qu'elle existe en manga?
La Bible existe en manga. Ah, ouais. Il y a même un manga parodique, hein, mais très fun, qui s'appelle Les Aventures de Jésus et Bouddha.
Ah, très bien.
Voilà.
D'accord.
Mais il faut savoir que la vie de Jésus était le dernier projet qui avait été fait par Osamu Tezuka.
Ah, d'accord. Donc,
sur commande spéciale du pape Jean-Paul II.
Rien que ça.
Ah, rien que ça, mais il n'a pas pu faire les premières planches. Il est décédé avant. Voilà. Non, mais c'est un fait.
Alors, nous avons une question qui revient un petit peu à propos de justement cette rumeur qui court à propos d'une émission dans l'espace. Et donc, cette personne nous dit « Chez moi, le week-end, lorsqu'il pleut, je ne peux rien faire d'autre que lire et je peux vous dire qu'en ce moment, je lis énormément. Donc, merci de me conseiller dans le choix de mes lectures. Mais j'ai entendu dire que vous allez peut-être faire une émission en direct de l'espace. Pouvez-vous donner encore plus d'informations à ce sujet ? C'est signé Hiti.
Eh ben non, pour l'instant, on n'a pas grand-chose.
Donc voilà, c'est ce qu'on disait en début d'émission. Voilà, on t'a pris de court.
On préfère Hiti. Pas dire. En plus, c'est conditionné par rapport au lancement qui a lieu le 5 courant.
5 juin, donc voilà. Donc la semaine prochaine.
Voilà, puisque donc il y a, puisque en fait il y a le lancement, le cargo ravitailleur et pendant une dizaine de jours en fait atteint une certaine vitesse pour arriver à la bonne vitesse, ouais, et sous le bon angle station spatiale, puisque enfin c'est une mathématique assez compliquée, ça va être ah bah tiens, ça fait plein de questions.
Mais bon, ouais.
Et je sais pas, sinon du sport, qu'est-ce que tu as toi de ton côté pour des extraterrestres bloqués sur Terre, des trucs intéressants, ouais, à lire.
Il était dans son lit.
Non, mais il répond jamais au courrier. Donc,
De toute manière, il suffit déjà de regarder la télé avec des séries comme Les Assassins de l'espace pour savoir comment se débarrasser des humains.
Voilà.
Non, mais tu vas voir qu'il me fait le coup. Attends, j'ai déjà assez avec le courrier de la radio. Hein. T'as vu ce qui est arrivé ce matin? Il nous chie une pendule parce qu'on a reçu France Dimanche.
Ah non.
À la place du voisin.
Avec DSK en couverture.
Ah, génial.
Ah,
avec un film sur lui bientôt.
C'est le premier samedi du mois.
T'es horrible. T'as pas le droit de dire ça, franchement. On va te crypter, hein. Bon, bref. Veux-tu un dernier courrier?
Pour voir, ouais.
Bon, alors. C'est véridique. Mais c'est quoi ces spoils de la honte sur Iron Man 3 à 3 points d'exclamation? En tant que fanboy numéro 1 de Tony Stark dans une zone géographique située entre l'entrée et la sortie de mon charmant village du nord de 2200 habitants, je ne peux cautionner un tel viol du génie marketing auquel nous avons eu droit au fil des différentes bandes annonces durant les mois d'attente et qui nous a tous bernés lors du visionnage. Messieurs, un blâme pour vous, signé Nicolas D.
Et il a tout à fait raison.
Et c'est vrai qu'on était un peu... Alors, j'ai envie de le répondre.
Qui nous écoutait sur les terres d'ailleurs, des Fatal Picard.
Oui, tout à fait. Et donc... En fait, c'était une discussion sur Facebook et je lui avais répondu. Si j'avais voulu spoiler, j'aurais parlé de l'armure autonome qui s'approche et se déploie automatiquement dans un plan sous-cutané.
Putain, où c'est que je coupe son micro?
Ouais, mais il suffit d'avoir lu les BD pour savoir que...
Alors, forcément, on s'arrête au film. Un peu de lecture, messieurs, voilà, dames.
Mais malheureusement, je trouve qu'effectivement, il y en a, après réécoute, il y en avait beaucoup qui avaient été dit. On s'en excuse, c'est vrai. On essaie quand même d'avoir un certain respect vis-à-vis de l'auditeur sans trop dévoiler. Des fois, c'est pas évident.
Ouais, c'est peut-être 2 semaines après la sortie.
Veuillez excuser quand même Morgan qui est encore
Je suis en période de
en rodage.
Ouais, je suis en rodage. Mais j'espère que tu as aimé le film, Nicolas D. quand même.
J'espère bien pour lui, oui.
Non, mais il m'a dit qu'il l'avait vu finalement dans les temps.
Bon. Dans les temps ?
Ouais, dans les temps.
Ouais, maintenant ils font des multiplex dans les temps.
Dans les
c'est
temps.
C'est pour la 3D. C'est une 3D hackeuse. C'est ça que ça me fait pleurer en général. Rapidement, la revue de presse dans le supplément week-end, 12h26 déjà, sur Radio FMR. Le psychopathe numéro 254 est arrivé en kiosque, 5 € mensuel. Donc le numéro de juin est consacré à une spéciale prise d'otage et un débat à manière itélé. Terrorisme ou résistance? Non. Non. Quand on retient en otage quelque chose et que le courant ne passe pas, c'est un condensateur.
Oui, parlons physique. Oula. Ça me rappelle les cours de seconde. Mais tu vas de trop loin.
Exagé. Je suis franchement désolé.
Ah, mais de toute manière, on est pris en otage quel que soit le moment. De toute manière. Surtout, c'est bien expliqué dans les BD, dans le psychopathe. Hein. Si on n'est pas otage avec les gens, on est otage de savoir qu'est-ce qui se passe.
Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'a du sport, sachant qu'on a une programmation musicale qui sera annoncée comme très jazzy, très de Charleston, excusez-moi, et Bango, on a un peu de tout à l'heure, et vous allez découvrir pourquoi. Ça m'apprendra à avoir un hockey en plein direct. Duce, ma foi, avant tout cela, je crois que tu as des trucs qui te déchirent un petit peu du popotin, et pas vraiment pour les gosses.
Non, justement, c'est pour ça qu'il est en haut pour l'instant.
Faut que j'aille couper le retour.
On va le faire en deux parties. Hein, tu foutras un morceau de musique, puisque ça c'est plutôt dans la catégorie périodique, on va dire. C'est le numéro de juin de Watchmen, donc le numéro 3 en fait, avec toujours les couvertures variantes. C'est-à-dire, vous avez Rossage en couverture, mais vous pouvez l'acheter avec une autre couverture également. Quoi.
Il est bizarre ce format, non?
Non, c'est
le format habituel.
C'est le format habituel. Alors, on l'attendait depuis le premier numéro en fait, et on se disait, ouais, mais il y a rien sur Rossage, quoi. Et ça attaque dans le numéro 3. Il y a la série complète, enfin la série dédiée à Rorschach, qui sera en 4 parties d'ailleurs, et ça va te faire vachement plaisir, Xavier, parce que celle-ci, Rorschach, est scénarisée par Brian Azzarello, qui nous fait déjà le comédien, d'accord, et là il fait Rorschach aussi, et je peux t'assurer que ça va, c'est pas mal. Sinon les autres, on les connaît.
Le comédien, c'était vraiment surprenant et génial comme idée. C'était vraiment sur le personnage, vraiment un peu revu, mais du coup dans certaines entrées.
Moi ce que j'adore, hein, de toute façon,
c'était un peu en contradiction avec l'intro du film qui était quand même très fun, mais finalement
ouais, mais on commence à comprendre un petit peu, et ça commence à se rapprocher un petit peu de ce qu'on voit dans les Watchmen, hein. On commence à comprendre un petit peu le personnage et tout. Alors bon, le comédien de toute façon là dedans hein, il est bigger than life, ça y a pas de problème, quoi. Il téléphone à des potes vachement haut placés, genre Ted Kennedy, Bob Kennedy, sans problème, en ligne directe, vas-y, ils se tutoient, ils se connaissent vachement bien, de toute façon. Et bon, là, on apprend un fait d'histoire qui est avéré maintenant, mais qui a été longtemps caché, les opérations secrètes de la CIA pendant la guerre du Vietnam. Bon, alors, on est plus ou moins au courant, d'accord, ok. Hein, qui a inondé d'héroïne les ghettos américains? Bon, on pose plus la question. Non, c'était pas des méchants, si, c'était des grands méchants. Alors, il y a les Minutemen aussi. Et là, c'est pas mal. C'est la série scénarisée et dessinée par Darwin Cook. Et qui est un petit peu, comme c'est les Minutemen qui sont les, si vous connaissez vos Watchmen par cœur, vous savez que ce sont les ancêtres, on va dire, hein, ceux qui ont été les premiers dans les années 40. Et donc, c'est bien entendu. Avec également un graphisme années 40, qui est vraiment très très bien foutu, très précis quand même, quoi. C'est ça qui est très très intéressant.
Les couleurs,
et on se rend, couleur un petit peu pétante, comme fade, mais il y a quand même des rouges pétants. C'est très bien foutu, quoi.
Délavé par le papier en général. Ouais.
Et là, ça se précise. Les deux premiers épisodes étaient consacrés plus ou moins à la réunion de ces Minutemen, c'est-à-dire au départ des gens qui sont chacun de leur côté, qui essayent de faire les super-héros et tout. Et là, on commence à les réunir. Mais bon, sauf que, y a des problèmes. J'en dirai pas plus parce que ça va quand même vachement loin. Il y a d'ailleurs le départ, d'un des Minutemen qui dit bon j'en ai ras le cul, faites chier quoi, je me casse. On a la suite du Spectre Soyeux, donc la fille, hein, pour ceux qui suivent, de Sally Jupiter qui fait partie des Minutemen, qui est toujours à San Francisco, Flower Power. Alors c'est des images psychédéliques à donf, en veux-tu en voilà, c'est rose, pink et tout, tout le monde oui. prend de l'acide, grosse orgie, plein de, enfin bon voilà quoi, c'est comme ça qu'on s'imaginait un petit peu ce qui se passait dans les années 60. Le comédien, j'en ai parlé, une petite 2-3 pages qui est consacrée à une BD qui est sortie et qui a inspiré quand même un personnage qui est Rorschach. C'est The Question, qui a vraiment existé, hein, disons, et bon, bah, on fait un petit peu l'historique de cette bande dessinée. Et il y a l'apparition, non pas seulement de Rorschach, mais également de Dr. Manhattan. Et là, eh ben,
c'est du lourd.
On se dit, bon, ben, d'accord, bon, bah, alors, on reprend dans ce premier épisode, l'aventure un petit peu de Dr. Manhattan et ce qu'il était avant, on va dire, hein, bon, bah, ce qui est déjà expliqué dans les Watchmen, hein, de Alan Moore, mais par contre, eh ben, au bout d'un certain moment, ça commence à partir dans un délire, on va dire, très métaphysique, un petit peu, ce qu'on avait connu justement dans les Watchmen, tu sais, quand, à un moment où ça pète vachement et que Dr. Manhattan, qui pourrait tout sauver, qui pourrait tout foutre au point, et ben il se barre, il va faire le con à jouer à la pétanque avec les planètes, des trucs comme ça, quoi. Et donc là, c'est pareil, quoi. Mais c'est très très bien foutu et surtout c'est dessiné de manière impeccable. Là, c'est Adam Hughes qui dessine et c'est Joe Michael Straczynski qui scénarise.
Oh,
donc on a pris vraiment l'eau du panier, hein. Bon, on le disait déjà depuis le départ, depuis le numéro 1, mais bon là, bah ça continue. Allez-y.
Comme quoi, les a priori qu'on avait depuis le tout début.
Les ABC qui changent pas d'avis.
Et on a encore une petite nouveauté. Et ça, c'est le truc qui est récurrent, on va dire, par rapport aux Watchmen. Bon, ceux qui ont lu les Watchmen, relu les Watchmen, sont au courant. Bien là, on a l'histoire complète, la malédiction du corsaire sanglant, scénarisé par Len Wein et dessiné par John Higgins. Et là, c'est pas mal du tout. Moi, je m'attendais à un truc un peu plus mineur, quoi, un truc un petit peu OK, faut faire du remplissage et il faut être fidèle à l'œuvre originelle, donc avec toutes les inserts, toutes les inclusions qu'il a mises Alan Moore. Eh ben non, je me rends compte que bon bah ça peut déboucher, parce que là c'est le premier épisode, ça peut déboucher sur quelque chose de vraiment très très intéressant.
Faut expliquer qui est complètement autonome. Faut expliquer que c'est une histoire en fait de pirates, qu'elle a été complètement mise de côté pour le film et qu'elle est dans les bonus DVD, hein, mais dans la bande dessinée originelle, justement, elle accompagne extrêmement bien l'histoire. Ouais. C'est même surprenant la manière dont en fait il y a un écho par rapport aux événements qui se passent en dehors de cette
BD. Presque un effet de miroir, quoi, par moment, quoi. Et bon, c'est là qu'on se rend compte que bon, bah, ça fonctionne. Alors que là, comme chaque personnage et on fait une histoire personnelle. On va dire, on voit pas bien ce que pouvait foutre le corsaire sanglant justement par rapport à ses autres histoires, mais bon, bah il a son histoire propre et ça marche très très bien, quoi, aussi. Donc numéro 3 de juin, Batman.
Allez, là.
En périodique, donc dans les kiosques, et c'est bien entendu chez Urban Comics.
Je comprends, hein, c'était chez DC aussi, donc.
Mais c'est DC, quoi, donc.
Tout à fait. Je crois que tu as Hit Girl.
Ouais, moi je pense qu'on va faire une petite pause.
Bah, tu veux une pause longue là, tranquille.
Ouais.
Bon,
ouais, de toute façon, on peut tirer en longueur aujourd'hui, je pense.
Il est 12h34 déjà. Si je mets un morceau de 6 minutes, je pense qu'on peut arriver à être en retard.
Non, mets-moi un peu de banjo là. Quoi.
Du banjo là de suite. Je préfère pour après. Pour l'interruption.
Tweetez-nous la musique que vous voulez écouter.
Ah, mais non. Moi, je vais mettre Scissor Sisters.
Stop ou encore. Super week-end.
Enfin, quand le lecteur il veut bien, voilà. Invisible Light, Scissor Sisters.
Thank you.
Mama Zion, the pacing tiger, the keeper's cage, invisible light shoots from your eyes. A sign I can see from my high heights. Another castle crumbles, another monkey falls. Just open up your joy and let the sailors climb the walls. I thought I saw you laughing, 10 feet in the air. It doesn't matter if they touch you, where they cut you, can you give me?
Invisible Light.
Alors qu'on parle Minitel.
Ah oui.
Par eux.
Invisible Light par les Scissor Sisters. Oui, je sais, ça fait un petit peu space.
Ce sera dans le ton du prochain, de la prochaine émission. Et de ce qui va suivre.
C'est un petit peu difficile. Enfin, non, mais je suis vraiment. Dans un sale état, ça va être dur. Du sport, heureusement, ouais. Lui, il tient le choc.
D'accord. Alors, éloignez un petit peu les enfants du poste là, parce
ah,
que ça va
ça
un petit peu dépoter, quoi.
Ah, c'est pour ça que tu voulais l'interruption.
Non, non, non,
ah.
C'est pour le prévenir, parce que comme il est en train de jouer à Galaxy Life, le temps de d'attendre que le truc soit dégommé et tout, quoi. Il faut pour avant, parce que sinon, quoi, le mec il revient après,
bien
puis
sûr,
il te dégomme, quoi. Donc ça sert à rien.
Non, ça sert à rien.
Donc il veut me prévenir à l'avance, comme ça il a le temps de finir son truc et ensuite il peut.
Et comme ça, il est pas stressé.
Et il est pas stressé.
Tu as raison.
Bon, mais...
hein.
Parlons un petit peu de Hit Girl.
Du sang.
Qui est sorti. Alors, petit bémol, en anglais. La version française n'est pas encore disponible. Ça ne saurait tarder, de toute façon. Très jolie couverture en, je sais pas comment ça s'appelle là, tu sais, le truc brillant. Et
brillant.
Tout,
enfin, mat et brillant.
C'est vernis sélectif.
Voilà, vernis sélectif. Non, 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 mais Thomas il le sait, c'est pour ça que j'avais déjà entendu, quoi. Ouais, vernis sélectif. Donc, Hit Girl. Au-dessus, en petit sous-titre,
sous-titre,
on va dire, c'est Kick-Ass 2 Prélude.
Ah.
Ce qui signifie en fait,
quel, quoi.
Signifie en fait que l'histoire de Hit Girl se passe entre
le
Kick-Ass 1 et Kick-Ass 2. C'est-à-dire après le film.
Oui.
Hein, pour les gens qui n'ont pas lu la BD, qui est très fidèle, hein, le film est très très fidèle à la BD. Le Kick-Ass 2 est en préparation.
Il doit sortir cette année.
Voilà, donc ça va être nickel. Et j'espère qu'on va nous faire le Hit Girl. Là, j'espère de tout cœur. J'espère de tout cœur qu'on va nous faire le. Alors bon, je rassure tout de suite ceux qui ont lu Kick-Ass 1, Kick-Ass 2, l'intégrale, hein, c'est-à-dire le avant et le après. Vous pouvez y aller à fond dans le Hit Girl sans problème, parce qu'en fait, eh bien, c'est la période qu'il y a entre Kick-Ass 1, Kick-Ass 2, où on sait pas ce que deviennent les personnages pendant un certain moment, parce qu'on sait qu'au début de Kick-Ass 2, ce qui se passe, c'est le retour de Red Mist. Red Mist qui décide qu'il va dégommer tout le monde. Il revient pour se venger parce que bon, bah, Kick-Ass a descendu son père, a carrément ratiboisé, quoi, la mafia, enfin, au moins, le croit-il. La mafia de New York, du moins le croit-il. Et va s'en suivre l'histoire qu'il y a dans Kick-Ass 2, qui est vraiment bon, très très heavy, on va dire, hein. C'est encore plus dur, encore plus glauque par moment, quoi, que le Kick-Ass 1, dans les scènes bien glauques, quoi, on va dire, quoi. Et là, le Hit Girl, on se dit, comme il est sorti après le 1 et le 2, on va en rajouter encore une couche, les gars. Et bon, c'est vrai que bon, c'est quand même pas normal du tout. Une petite gamine qui est
orpheline
elle est orpheline elle est encore avec sa mère, hein, il y a que le père qui est elle a des parents d'adoption,
oui.
Quoi, donc de ce côté-là, pas de problème, mais là sa vraie mère, et elle a été adoptée par le flic, quoi, donc qui était le collègue de Nick Cage dans le film.
Exact.
Ok, bon, non, là, c'est pour mettre les choses en place. Hein,
tu as raison, tu as tout à fait raison.
Non, mais il y a pas de problème. Donc c'est quand même bizarre, enfin c'est quand même trash, une gamine de 12 ans, quoi, qui dégomme à fond les manettes des gens, comme il est dit dans la page intérieure et tout, quoi, comme Hit Girl, elle peut infiltrer une réunion de boss de la mafia, elle peut mitrailler une pièce remplie de gangsters, et elle peut descendre à plus d'un mile un type qui est un pédophile, quoi. Bon, voilà, ça c'est la caractéristique de Hit Girl, quoi.
Ah, ça fait penser à ça me fait penser à la fille dans comment il s'appelle, là où ça dégomme du super héros, merde. Il y a dans le comics où t'as ceux qui sont contre les super slips. Tu dois t'aider.
Et The Boys.
The Boys, voilà.
The Boys.
Et t'as une fille, tu la vois rentrer dans un truc, il y a des mafieux et tout le bazar. C'est la fille, non?
La fille.
Ouais, la fille.
La fille.
Mais ça me fait penser à ça, Tu la vois rentrer.
C'est pas la même chose, parce que là,
tu la vois rentrer dedans, et ensuite t'entends ça découpe et tout le bazar, tu la vois ressortir, t'as juste le petit filet de.
Sauf que bon, bah là, c'est dans The Boys, c'est suggéré, quoi.
Oui.
On voit pas.
Alors que là,
tu vois tout. Là, tu vois tout, quoi.
Et
ça, c'est encore bisounours, quoi.
Ouais.
Ça, c'est encore vraiment bisounours, quoi. Tu vois, parce que bon, il y en a pas mal d'autres où tu te dis, bon, ouais, d'accord, ok, je croyais avoir tout vu dans le 1 et le 2 de Kick-Ass. Bah non.
Apparemment, c'est encore plus.
Allez, vas-y, y a pas de problème, quoi. Alors, Qu'est-ce qui se passe justement entre ces deux Kick-Ass? Eh bien, bon ben, c'est-à-dire que à la fin de Kick-Ass 1, le père qui est flic, quoi, le père adoptif, quoi, qui a recueilli Mindy, eh bien, lui a fait jurer de ne plus jamais remettre son costume de Hit-Girl, d'accord, hein. Et de son côté, Dave Lizeski, alias Kick-Ass, il continue son petit truc de vie et tout, en continuant à être Kick-Ass, parce que je rappelle qu'il y a déjà, alors ça c'est un petit truc qu'on découvre dans Kick-Ass 2 au début, quoi, de quelques super-héros, enfin super-héros entre guillemets, à l'instar de Kick-Ass, hein, c'est-à-dire des types tout à fait traditionnels qui n'ont pas de super-pouvoir, mais qui se disent ouais, je vais faire le bien, rétablir la loi, enfin tout ça dans les rues, quoi, genre Guardian Angel, quoi, enfin bon, dans les rues de New York, quoi. Donc ok, sauf que Mindy a un gros problème, un énorme problème, mais un problème que tu connais même pas, que tu sais pas, et nous on n'a jamais connu ce problème parce qu'on est des garçons, hein, ben c'est la jalousie et c'est la méchanceté qui peut exister entre gamines à cet âge-là à l'école. Et on sait que dans les écoles américaines, on sait que dans les écoles américaines c'est encore amplifié, parce que il y a certaines personnes, il y a certains personnages iconiques à l'intérieur de l'école. Il y a le capitaine d'équipe de football, il y a la reine des cheerleaders, voilà, qui est donc la nana qui est la plus appréciée de tout le collège et tout. Et là, en l'occurrence, eh bien Mindy a un problème, parce que ben celle qui est, on va dire, la patronne des gamines de la classe et même de l'école, eh ben on a contre elle. Mais à fond. Et bon, bah, dans la bouche de Marc Millar, ça va très très loin. Je vous passe les détails parce que bon, bah, des motherfuckers et des trucs, tout ça, c'est l'insulte de base. On va dire, c'est carrément, presque une ponctuation. On va dire dans le texte. Mais par contre, elle, ça lui fout vraiment les boules, parce que elle est tiraillée entre le fait que de se dire je suis une gueule, quoi, si je voulais, mais je pourrais la dégommer, mais sans problème et tout, quoi, en levant juste le petit doigt, mais je peux pas parce que j'ai promis à mon père. Ok, elle va se dire je vais faire comme Superman, je vais avoir une identité, j'ai mon identité secrète, mais je vais faire comme Superman qui quand il est Clark Kent, quoi, on croit que c'est un nulos, que c'est un cono, qui sait même pas qu'il y a une super gonzesse qui essaye
de draguer.
Voilà, enfin bref, quoi. Et elle se dit bon bah il faut que je joue dans ce domaine-là. Mais elle y connaît rien à la vraie vie. C'est une nana qui dès l'âge de 4 ans a été entraînée par Big Daddy à manier toutes les armes et tout. Bon bah ça on l'a vu dans Kick-Ass 1. Et donc elle propose un deal à Dave Lizeski.
La vie est simple comme un katana.
elle va proposer un deal à Dave Lizeski, elle va dire bon bah c'est bien simple, toi à la sortie de Kick-Ass 1, bon, c'est pas mieux de battre, de toute façon, quoi. Bon, bah, t'es un peu nul, t'as toujours eu de chance, hein, c'est vrai, quoi. Kick-Ass, bon, on l'a vu. Ça a bien réussi. Moi, je vais t'apprendre à te battre, à te défendre, à dégommer. Mais toi, tu vas m'apprendre ce qu'est la vie normale. Voilà. Et alors, ça donne Dave Lizeski qui dit, now, Sly, Bruce, Arnie, Verhoeven, Jean-Claude and Mac Tiernan movies are all banned. Legally Blonde, Cathy Holmes, Emma Roberts, and all vampire stuff is solid gold. Et t'as Emma qui répond, I can't watch this shit. These are chick flicks. C'est-à-dire, c'est des trucs de gonzesse, quoi. Et donc, commencer, eh bien,
l'apprentissage de la vie normale pour l'un, et
donc, on va avoir l'apprentissage de l'un avec l'apprentissage de l'autre. Alors, l'apprentissage de Dave Lizeski, alors ça commence par un gars qui est carrément énorme, parce qu'on lui dit, bon, le premier truc et tout, c'est, de te suspendre à une corde et tout, de telle manière à pouvoir, atterrir, quoi, dans l'étage en dessous, de fracasser la vitre et tout, d'arriver et de dire
faire l'entrée.
Salut les gars, je vais vous en foutre une bonne, une grosse rousse et tout. Bon, je vous passe le truc parce que bon, il y a également un truc sur la punchline qu'il faut dire une fois qu'on a franchi la vitre. Alors ils essayent, alors ils se fracassent la gueule. Enfin, c'est très rigolo.
Garanti doit y avoir le gag du mur, c'est-à-dire il vise la fenêtre, mais il se prend le mur.
Non, même pas. Comme, enfin, il y a pas besoin.
De toute manière, de base, c'est vrai qu'il casse.
Voilà. Et donc et après, bon bah, ils vont mettre leur exercice en pratique, on va dire. Et c'est là que ça va commencer à être très très chaud, parce que bon ben Mindy, mine de rien, même si elle ne touche plus à son identité secrète, elle en a pas moins des plans. qui sont bien établis pour bien éradiquer tout ce que la ville de New York et même bon le pays compte de vilains, à savoir surtout les gros boss de la mafia et tout, parce que le père de Red Mist quoi a été dégommé quoi dans Kick-Ass 1, mais il a quand même un frangin qui lui bah est au trou, c'est pour ça qu'on l'a pas vu dans Kick-Ass 1. Et ben bah, ce frangin bah c'est lui qui continue à faire tourner la mafia de l'intérieur de sa prison. Alors bon, c'est vachement bien représenté et tout quoi. On voit que le mec et tout, il bouffe seul au réfectoire. Quand il a fini de manger quoi, il appelle les gardiens, il dit ça y est, vous pouvez faire revenir les autres pour qu'ils puissent manger. Enfin bon, ça va très très fort.
Et là, du sport est actuellement dans la situation où je suis d'habitude quand je fais mes chroniques BD, c'est-à-dire que personne n'écoute.
C'est pas grave, c'est pas.
Mais parce qu'on a un truc trop bien, on a un pins qui fait de la lumière, putain. Non, bah...
Et donc on va suivre un petit peu cet apprentissage qui va être très très sanglant, parce que bon ben sans vous dévoiler ce qui se passe, faut bien dire que bon ben il y a des gens qui cherchent à se venger, qui savent un petit peu qui est Kick-Ass, mais pas trop, parce que Kick-Ass en fait on l'a vu à la télé et tout, ça a été alors que elle est toujours restée dans l'ombre en fait, hein, on sait qu'il y avait des
pas
gens qui
l'aidaient.
Ben non, mais bon ça fait partie de son boulot quoi, elle a été entraînée pour ça de toute façon quoi. Et bon ben il va quand même y arriver quelques petits désagréments, on va dire, à la famille.
Alors, il vaut mieux des hautes études finalement ou un BTS de justicier ? Un bac pro de justicier, pardon, ou un...
Les deux, mon neveu. Et en plus, cerise sur le gâteau, eh bien, on apprend également comment Red Mist devient le Red Mist qui revient dans Kick-Ass 2.
Ah, oh non, spoil.
Et alors là, mais non, mais bon, y a pas à spoiler, parce que bon, bah, son apprentissage, quoi. Alors là, c'est assez rigolo. Allez, il faut dire que dans toutes les pages, dans chaque page, il y a au moins une ou deux allusions aux comics, quels qu'ils soient. Et là, bon, mais c'est vraiment une partie de plaisir, quoi. C'est carrément énorme.
Moi, je comprends que tu te le fasses en VO, là.
Il y a même le moment où, à un moment, elle dégomme quelqu'un, quoi. C'est-à-dire qu'elle prend le mec en train de fuir et tout, quoi. Elle dit, attends, j'ai mon Mjolnir. Et puis elle lui balance un marteau dans la gueule.
D'accord.
Il y a que ça. Dans chaque page, hein, ça, il y a pas de problème. Peut-être dans quelques pages où ça dégomme, où c'est plus visuel, on va dire, où c'est plus graphiquement visuel. Là, bon, bah, ok. Mais sinon, c'est dans toutes les pages. Donc, c'est un vrai régal. C'est vraiment un régal. Et la cerise sur le gâteau, c'est justement Red Mist, quoi. Quand ils se barrent de New York, parce que bon, bah, ils ont été dégommés, son parent a été dégommé, toute sa baraque, et qui se dit, bon, bah, maintenant, il faut que je m'entraîne sérieusement pour pouvoir songer à me venger. Et alors ce qu'il fait, c'est que il copie bêtement Batman, quoi. C'est bon, bah, c'est cité, quoi. Et il dit, ouais, je vais aller trouver un maître qui va m'en, genre Ra's al Ghul, voilà. Je vais trouver mon Ra's al Ghul et tout, quoi. Mais bon, le problème, c'est que les mecs se foutent de sa gueule, savent qu'il est très très riche, et donc chaque fois lui propose des étapes successives, mais chaque fois il faut qu'il paye 10 000 $ en plus, voilà, pour pouvoir continuer l'enseignement, quoi. Alors il y a l'image qui est vachement marquante où il y a le vieux maître comme ça, oui, asiatique avec cheveux blancs, la grande barbe.
Ouais.
Et puis il dit, oui maître, j'ai accompli ma dernière mission, quelle est ma prochaine mission et tout. Bon, eh bien tu vas monter là sur le mont enneigé, quoi, pour trouver le lotus bleu, quoi. Et puis bon, le type il monte, alors en plus le mont il est complètement enneigé, tempête de neige, enfin bon, vraiment le truc bien glauque. Le mec il redescend et puis il dit, oui je l'ai pas trouvé et tout, quoi, c'est pas grave, ta quête est quand même achevée et tout, quoi, mais il va falloir que tu passes par un TFB. Allez, c'est 10 000 $ de plus. Alors là c'est vraiment le on va dire que c'est la partie qui dédramatise par rapport à l'autre pendant, c'est-à-dire l'histoire de Hit Girl et de Dave Lizeski, hein, qui là marche un petit peu main dans la main, on va dire, durant pratiquement toute l'histoire. Bref, c'est un vrai bonheur. Si je devais faire un classement des trois bouquins qui sont sortis, quoi, concernant Kick-Ass et Hit Girl, bah celui-là il est en dessus, quoi. Il est au-dessus, quoi, sans problème. Hein. Là, il y a, on va dire, Mark Millar arrive carrément à une espèce de quintessence du personnage, des personnages, de la façon de le raconter, quoi. C'est vraiment du pur bonheur. Fortement conseillé de toute façon. Hein, donc, Hit Girl, Kick-Ass 2, Prelude, par Mark Millar et toujours John Romita Jr., avec également quelques petits ajouts faits par Tom Palmer et Dean White. Et dans cette édition, bon, dans l'édition française, ils le font aussi, de toute façon, vous serez pas perdant, hein, si vous attendez l'édition française. les couvertures variantes quoi, qui sont également excellentes. Celle de Bill Sienkiewicz est pas mal. On a également celle de Jock que moi j'aime bien, et surtout celle de Geoff Darrow quoi, qui est complètement
Ouais, comme d'habitude avec Geoff Darrow, c'est ça, à la loupe,
Et ça part dans tous les sens. Oh, c'est le cas de dire. C'est vraiment le cas de dire. Donc là, Joke aussi, c'est le mec qui avait fait les Losers, quoi. Donc plus c'est le style graffeur comme ça, quoi. Mais vraiment très très bien foutu.
C'est édité chez qui, pardon, excuse-moi.
Alors donc là, bah c'est édité chez Icon, donc hein, qui est une sous-marque, quoi, de me semble-t-il de DC, quoi.
D'accord, ok.
Voilà.
Pour info, Kick-Ass 2, ce sera le 17 juillet en France et ce sera une première mondiale.
Oui, oui, ça commence à être la. Il récompense la France pour la loi Adopi.
C'est ça.
Je crois que tu as aussi Adventure Time. Il est pratiquement 13h, donc comme ça tu le fais et puis on a la paix.
Ok. Bon, bah il faut aller chercher le petit alors.
Ouais, bah pas falloir tarder. Ah, d'accord, ok. Ah! Bon, d'accord. Dans ce cas-là, ce que l'on va faire, chronique BD.
Je vais le faire.
Ok, vas-y.
Je vais le faire. Alors, dans un registre complètement différent.
Ah ouais, là, mais
heureusement que Benoît est là, parce qu'il va pouvoir faire un coup de main, parce qu'il a déjà vu le dessin animé.
J'ai déjà vu le dessin animé qui passe actuellement sur Cartoon Network. Mais qu'on retrouve aussi de temps en temps sur des chaînes du goût de la Gardère, que ce soit Gulli. On le trouve de temps en temps sur Gulli.
France 3, non?
France 3, non. France 3, c'est d'autres séries que l'on trouve du même réalisateur que Adventure Time.
Ok. Alors bon, quand j'ai vu cette couverture pratiquement dans toutes les bonnes librairies de Toulouse, c'est vrai, hein, en plus.
Ça y est, il est ça. Ah, ça y est,
on nous a entendu. Non, j'ai monté le son en haut dans le bureau. je me suis dit bon bah ok, c'est pas mal, ça vaut peut-être le coup, mais qu'est-ce que ça va pouvoir rapporter ? Parce qu'il faut quand même dire que le dessin animé est basé sur le rythme, sur la succession de gags, de bons mots, d'onomatopées, de bruits un petit peu divers. Alors il faut dire que c'est un petit peu politiquement incorrect quand même, parce que ça rote, ça pète. Bon ouais. Bah, il y a pas de problème, hein,
C'est une production Cartoon Network.
Et le langage est vraiment très très actuel, très modèle, hein. C'est très moderne. C'est wow, on a fait un super truc. Allez, vas-y, on check. Vraiment, c'est des expressions ça. Actuelles. Hein. C'est-à-dire que bon bah il y a pas de décalage, hein, par rapport au public qui est visé, quoi. Ça c'est clair. Alors c'est quand même un gros bouquin. Hein. C'est quand même un truc qui fait pas mal de pages, hein, qui doit faire plus d'une centaine de pages. Et c'est vraiment pas mal du tout. Alors quand je l'ai filé à mon fils qui est à côté de moi, Adrien, bonjour.
Bonjour.
Il m'a dit oui, mais j'ai déjà vu
la série
et j'ai déjà vu l'épisode qui est narré là-dedans. C'est-à-dire que bon, bah, c'est pas vraiment un inédit quoi en ce qui concerne l'histoire et le scénario, mais c'est un petit peu plus développé en fait quoi. Hein, c'est l'histoire du roi Lich qui a décidé de d'avaler tout dans son sac, dans une espèce de sac qui avale tout pour détruire la Terre. Quoi. D'abord, on prend les différents royaumes et tout, on avale tout et puis bon, il se retrouve dans une espèce de trou, les gens et les châteaux, enfin tout, quoi, les objets qui ont été avalés. Bon, on se retrouve dans une espèce de désert un petit peu zarbique où on sait pas trop ce que c'est. Et ils doivent se sortir de là quoi. Donc comment vont-ils faire pour sortir de là ? Alors c'est assez rigolo parce que bon il y a plusieurs degrés de lecture. C'est ça qui est très intéressant. Et alors un des trucs qui est aussi assez rigolo et qu'Adrien n'a certainement pas vu parce que c'est écrit en tout petit et c'est en bas de page et c'est très difficilement lisible ces trucs là.
Les notes de bas de page.
Les notes, c'est des notes de bas de page, mais c'est pas vraiment des notes de bas de page en fait. C'est une histoire parallèle.
C'est pas vrai.
C'est une histoire parallèle et il y a même, alors pas seulement que du texte, il y a également des fois des petits.
Ah oui, carrément.
Ah oui, des petites
cases. Des strips hein. Comme ça, quoi. C'est ce qu'on appelle les strips, hein, c'est-à-dire des trucs, des histoires en bande comme ça, quoi, qui font pas vraiment partie de l'histoire, mais en font partie quand même. Et bon, bah avec un ton vraiment décalé, quoi. C'est ça qui est vraiment très très intéressant, quoi. Donc moi, je conseille ça, quoi, vraiment, quoi. Même à un public assez mature, de toute façon, parce que dedans se dégage une espèce de poésie qui est assez agréable, un soupçon de réalisme, parce que bon, bah c'est quand même l'histoire des deux personnages principaux. principaux qui sont Jake le chien et Finn l'humain. Mmh. Alors Jake le chien, il a une caractéristique, c'est qu'il peut se transformer en absolument n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Hein. Il est supérieur à tous les super-héros qu'on connaît. C'est pas de problème parce que vraiment il peut s'en. Alors que Finn, lui, bon bah il sait pas faire grand chose. Mais bon bah c'est l'interaction entre les deux qui font qu'ils arrivent toujours à se démerder, à sortir de toutes les aventures. Alors Adrien, qu'est-ce que tu peux rajouter à ce que je viens de dire sur ce Adventure Time?
Ben, j'ai pas tout lu, mais ouais, j'ai pas tout lu, j'ai surtout lu l'histoire principale.
Ouais.
Ben, après, c'est bien dessiné.
Ouais, ça te plaît?
Oui, ça va.
C'est hyper coloré.
C'est hyper coloré, hein.
Le dessin animé déjà de base est très coloré. Ouais. Mais après, j'ai une question, toi qui tu suis la série Adventure Time sur.
Dis donc les deux dans le micro, merci.
Pardon. Tu suis l'aventure Adventure Time sur Cartoon Network. Apparemment, oui. C'est un épisode qui a déjà été diffusé. Mm-hmm. Est-ce que tu retrouves les éléments de cet épisode dans?
Non, justement, il y a pas beaucoup de ressemblances avec l'épisode.
D'accord, donc c'est vraiment l'histoire, mais
parce qu'on parle du même méchant, mais en fait c'est pas trop la même histoire que dans l'épisode.
D'accord. Donc en fait c'est la version longue, si je puis dire.
Ouais, c'est une version super longue en fait, hein, parce que bon, il y a l'histoire principale et après il y a des petites histoires subsidiaires qui font également partie du truc. Et c'est pour ça que bon, c'est un bouquin qui est quand même assez épais, quoi. C'est ça, quoi. Mais après... qui est quand même vachement agréable à lire. Puis alors il y a des gars qui sont quand même assez inénérables, quoi. C'est-à-dire en plein milieu du bouquin, alors c'est séparé en plusieurs parties, en plusieurs chapitres. Et puis à un moment tu tournes une page et tu dis bon voilà c'est fini. Ah, tu dis bah non c'est pas fini, reste tout ça encore. Enfin des trucs comme ça, quoi. Ouais, tu dis bon bah ok c'est bon, c'est pas mal du tout, quoi. Ça, non vraiment, quoi. Alors c'est scénarisé par Ryan Horse, quoi, et qui est également scénariste de la série. Mm-hmm. Et c'est dessiné par Shelley Parolin, Braden Lamb, Mike Holm et Stéphanie Gonzaga. Donc et c'est paru chez Urban Comics. C'est là la surprise quand même, hein. Urban Comics, bon bah c'est eux qui ont repris la suite de Panini, quoi, en ce qui concerne tous les DC, tout ça, tout ce qui est DC Comics. Et là bon bah on nous sort un Adventure Time qui bon bah est vraiment décalé, mais c'est dans une série un petit peu spéciale car il s'agit de la série Indies, quoi, c'est-à-dire indépendant, quoi. Mais bon, c'est quand même un beau bouquin, quoi, et qui vraiment se lit pas mal, quoi. Moi je le conseille vraiment, quoi. Hein, toi Adrien, c'est pareil, tu le prêterais à des copains pour
ouais.
Si te le rendent.
Bien entendu.
Bien sûr.
Allez, c'est donc c'est le tome 1 en plus, hein, et il va y avoir une suite de toute façon, donc c'est à suivre, quoi. Et j'ai toujours pas écouté de banjo, quoi.
Tout à l'heure. Ah, quoique, non, maintenant.
Non, parce qu'il me dit, en conférence de rédaction, il me dit, ouais, tu ramènes des trucs de banjo, on parlait de Jack Vance, qui était un bon joueur de banjo, ok, alors bon, bah. En plus, il a le choix, hein, il a 4 disques, quoi, donc il a vraiment le choix.
Il le fait exprès.
Ouais, mais bon, hein, c'est pas comme si on le connaissait pas.
Non,
hein,
je pense bien.
T'as compris.
Non, c'est pas son genre.
Il est 13h, vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz, vous êtes dans le supplément week-end.
Et vous allez écouter Fudding Banjos par Eric Weisberg et Marshall Brickman.
Et ce
morceau va vous dire quelque chose certainement.
Ah, allez.
Ouais, non, mais moi je monte le son 10 secondes avant et vous parlez dessus. Fudding Banjo de Eric Weisbach.
On parlait banjo, écoute.
Weisbach et Martian Brickman. Faudrait que je me réécrive un peu mieux.
T'endors pas sur ton micro là.
Il
l'a cogné sur le micro, boum.
À peu près. On va continuer dans la bande dessinée avec, ma foi, vraiment un très très beau bouquin qui est arrivé cette semaine. Vraiment une belle beauté. Scénarisé par Christian Périssin et dessiné par Eric Buche. Le vent des cimes, c'est chez Glénat. Et nous sommes en Amérique du Sud, dans les temps héroïques de l'aéropostale. Ces pilotes qui franchissaient la cordillère des Andes aux manettes de leur biplan pour faire traverser le courrier d'un bout à l'autre du monde.
Puis bon, Todorov, hein, je te rappelle.
Il démarre. Non, pas là. Non, pas là.
Pas celui-là ?
Merde. Non. Un trajet bien dangereux au-delà des cimes enneigées, balayé par des vents violents qui ont traversé tout le Pacifique. Et si ces pilotes sont des héros, on est dans une épopée sauvage. À Buenos Aires, Rachel attend son futur mari. Ils doivent se marier le lendemain. Mais Jack n'a pu obtenir son jour de congé et doit faire la liaison avec Santiago. Seulement voilà, Jack n'est pas arrivé. Ce qui veut dire qu'il lui est peut-être arrivé malheur. Et c'est exactement ce que craignait Rachel. Jack a dû se poser aux vaches sur les coups de vent traîtres, en plein dans les neiges éternelles au plus de 5000 mètres de hauteur, loin de toute civilisation, dans le froid glacial des très 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 hautes montagnes. Et évidemment, comme on est dans les années 20, point de radio à bord, Jack ne peut que compter que sur lui-même pour revenir parmi les hommes. Car si Rachel se démène, le patron de l'aéropostale refuse de gaspiller carburant, personnel et avion, et préfère tirer la cargaison courrier en perte. Elle-même, ex-pilote acrobatique, Rachel décide de porter secours à son mari coûte que coûte. L'amour de Jack et Rachel peut-il aller bien au-delà des montagnes ? Périssin nous sert une fois de plus une histoire charpentée, documentée. Une très belle épopée à une époque où l'aviation était une affaire de casse-cou sur des machines fragiles. On imagine qu'il s'est inspiré de plusieurs histoires vraies. La grosse surprise, eh ben, c'est le dessinateur Buche. C'est le dessinateur quand même, le papa, le créateur de Frankie Snow, le surfeur fou que l'on retrouvait dans Cho Magazine, qui a été aussi adapté en dessin animé. Et là, nous le retrouvons dans une bande dessinée à la composition subtile, magnifique, histoire très belle, et il l'a sublimé. On a vraiment l'impression d'avoir un dessin proche en fait de ce que fait la Warner dans les animations des Batman classiques et tout ça. De ce côté-là, c'est vraiment très très beau. On se trouve emporté dans ce tourbillon avec ce dessin dynamique et parfaitement en accord avec l'histoire. Une histoire de danger, de nature et de fragilité. Le vent dans les cimes, scénarisé par Christian Périssin, dessiné par Eric Buche, c'est chez Glénat.
Non, t'es sûr que c'est Eric Buche là ?
Oui.
Punaise, j'arrive pas.
On a vraiment du mal à le croire.
J'ai du mal à le croire, franchement. David, je le vois très bien avec son personnage du surfeur Frankie, mais là j'ai.
Là, on est vraiment, dans un très très beau livre qui l'a fait et qui est vraiment de toute beauté de ce côté-là. C'est extrêmement agréable, je veux dire, de retrouver quelque chose de ce genre.
Ouais. Enfin, moi personnellement, j'ai feuilleté. Je l'ai feuilleté comme ça.
Il faut se laisser porter par l'histoire, hein. C'est.
Ouais,
c'est
non, mais voilà, c'est ça. Parce que bon, j'ai feuilleté
parce que
pour
c'est
voir,
vraiment un graphique novel.
Pour voir la qualité graphique. Moi, ce qui me gêne un peu, donc je le dis, hein. Moi, ce qui me gêne un peu, quoi, c'est pas le format, mais enfin bon, c'est surtout les fonds de cases, quoi. Qui bon, il y a des gros aplats. C'est pas tellement travaillé. Pour moi, il manque un petit peu quelque chose, quoi. Je veux dire, ça aurait gagné à être un peu plus enrichi. Au niveau graphique, s'entend quoi. Bon, l'histoire, elle doit être ce qu'elle doit être, ça doit être superbe. Mais bon, là, c'est, tu vois, dans les trucs aériens et tout, il n'y a pas vraiment de détails, on voit pas de nuages. C'est vraiment des
là,
fonds.
Là, il est en pleine tempête.
Ouais,
hein.
Ouais, mais c'est des fonds quoi. Bon, bah, t'as même pas de flocons, des trucs comme ça, rien quoi.
De temps en temps, sur certaines cases.
Ouais, sur certaines cases. Mais sur la majeure partie du bouquin, bah, t'es là, tu dis bon. C'est-à-dire que tu t'as pas envie de rentrer directement dedans quoi au départ parce que bon, bah, il y a peut-être ce manque quoi. Mais après, bon, bah. C'est vrai que c'est un bel objet, hein, c'est vrai. Hein,
moi, je pense qu'il s'est surtout, concentré sur les personnages qu'il dessine très bien et là où on le découvre complètement, et c'est vraiment extrêmement agréable. Moi, personnellement, je l'ai pris et bon, je t'ai claqué, mais je l'ai quand même dévoré d'une traite. J'ai vraiment apprécié, j'ai été porté par l'histoire. Et par la fin, je vous la laisse à découvrir une fois de plus, on va pas le raconter. Mais voilà quoi, on reste dessus, sincèrement. Un grand classique. Ré, adapté au cinéma. Et bien. Le cinéma vous est présenté en 3D mono par...
3D par Morgan. Mono.
Ma foi, Morgan, c'est un immense classique de la littérature.
Oui, car on va parler tout à fait de Gatsby, le magnifique, qui est donc le troisième roman de Francis Scott Fitzgerald, publié en 1925, et qui a été adapté récemment, encore une fois, au cinéma, par le réalisateur Baz Luhrmann. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est de lui dont il s'agit aujourd'hui.
Tu seras fouetté par Thomas.
C'est clair, comme d'habitude. Donc Gatsby le Magnifique actuellement au cinéma, sorti le 15 mai dernier, film donc réalisé par Baz Luhrmann avec en tête d'affiche Leonardo DiCaprio, Toby Maguire qui était notre cher ami Spider-Man, Carey Mulligan qu'on a pu voir dans Drive et Shame. Je sais pas si vous vous rappeliez. Très bonne actrice. Donc l'histoire se déroule au printemps 1922, l'époque qui est propice au relâchement des mœurs, à l'essor du jazz et à l'enrichissement des contrebandiers d'alcool. Apprenti écrivain, Nick Carraway quitte la région du Middle West pour s'installer à New York. Voulant sa part, lui également, du rêve américain, il vit désormais entouré d'un mystérieux millionnaire, Jay Gatsby, qui s'étourdit en fait mondaine et de sa cousine Daisy, accompagnée de son mari volage, Tom Buchanan, issu de sang noble. C'est ainsi que Nick se retrouve au cœur du monde fascinant des milliardaires, de leurs illusions, de leurs amours et de leurs mensonges. Témoin privilégié de son temps, il se met à écrire une histoire où se mêlent des amours impossibles, des rêves d'absolu et des tragédies ravageuses, et chemin faisant, nous tend un miroir où se reflète notre époque moderne et ses combats. Donc effectivement, on comprend tout de suite qu'il s'agit du livre, puisque dès le début du film, nous rencontrons Nick Carraway, qui, alors on ne sait pas s'il est chez un ami, chez un médecin, chez un psychiatre, mais en tout cas qui a besoin de poser sur papier un petit peu raconter ses histoires et de se soigner apparemment en racontant l'histoire de la rencontre avec le fameux Gatsby. Donc Gatsby, alors j'expliquais auparavant que Nick s'installe à New York pour une nouvelle vie. Il a quelques amis sur New York. Lui, ce qu'il veut, c'est écrire, mais il s'en sent pas en fait vraiment le talent ni l'énergie. Donc voilà, il est trader en fait à New York. Et il habite à côté d'un certain Gatsby qui de temps en temps il aperçoit à la fenêtre un homme mystérieux dont tout le monde le connaît mais sans le connaître en fait. Dans New York, on dit Gatsby, c'est un véritable laissez-passer, c'est-à-dire que hop, tu fais ce que tu veux. Le mec dans la rue, il dit « Je connais Gatsby, allez-y, circuler, le policier ne l'arrêtera pas, il n'y a pas de souci. » Bon, bref. Donc, c'est un certain personnage un peu mystérieux qui, comme ça, plane au-dessus de New York et qui va croiser le chemin de Nick Carraway. Donc, qui est Gatsby? Gatsby, c'est tout simplement un milliardaire un peu excentrique qui organise des grandes soirées dans sa magnifique maison. Donc, tout New York s'y rend. Mais voilà, personne ne voit vraiment Gatsby, personne ne sait qui c'est, mais un jour, Nick va être convoqué, va recevoir une invitation signée de la main de Jay Gatsby. Alors là, lui, il connaît pas du tout, il se demande pourquoi lui, enfin, il vient d'arriver, il comprend pas. Et donc, il va comme ça faire la rencontre de ce fameux Nick, de ce fameux Jay Gatsby, qui en fait a besoin de Nick, parce que, en fait, il convoite un petit peu sa cousine. Sa cousine qui est d'autre que Daisy et qui habite comme par hasard, juste en face de l'autre côté de la rive. Alors, le problème, c'est que Daisy, elle est mariée. Et alors, ça, c'est moche. Et ça, comment conquérir une demoiselle mariée? Ou en tout cas, peut-être
Parce qu'elle est mariée, elle n'est plus demoiselle.
Déjà, tu vois. Jolie. Et donc, en fait, on va découvrir une histoire d'amour mélodramatique, comme on a l'habitude avec les films de Baz Luhrmann, d'un amour qui paraît impossible et... Bon voilà, j'arrête de spoiler. Donc voilà, c'est comment faire des tonnes, se créer un personnage pour une seule femme, pour la reconquérir, parce qu'on apprend voilà que Jay ne va passer sa vie, chaque choix, chaque décision de toute sa vie aura été choisie pour Daisy, pour sa Daisy. Donc voilà. Donc Nick va être un petit peu le lien entre ces deux personnes. Il va les faire se rencontrer. Il va voilà. Et on suit Nick dans tout au long du film avec quelques ellipses et flashbacks pour venir au moment où il écrit en fait ses pages. Et voilà, il y a pas quasiment pas une scène sans qu'on suive Nick incarné par Toby Maguire. Personnage un peu effacé du coup parce que voilà le but c'est que le spectateur se mette à sa place, voilà c'est vu au travers de ses yeux et voilà. Donc ce qu'il faut dire que dans ce film, alors je sais pas, est-ce que vous l'avez vu ici?
Non,
loupé, moi. Vous l'avez loupé. Alors c'est que on a, alors je l'ai vu en 3D VO. Ouf. Il restait que ça. Je vous le dis tout de suite, la 3D ne sert strictement à rien. Alors c'est magnifique, ça brille de partout. Tout est retouché, retravaillé. Il y a beaucoup de, en fait, de synthèse, d'images de synthèse. C'est le vieux New York, vraiment. On passe des quartiers riches, extravagants, folkloriques, avec les quartiers très pauvres, très sombres, les mines, etc. Donc on a vraiment ce contraste-là. L'ambiance y est super bien retranscrite. Donc on est vraiment plongé au cœur de New York. Donc on a la musique qui est juste, c'est awesome, tu vois, c'est génial. On a la BO est signée par Lana Del Rey, Beyoncé, Jay-Z, Fergie, Will.i.am, Emil Sandé. Voilà, on a un anachronisme musical.
Oui, ça fait un peu bizarre, oui.
Non, mais en fait, il s'en était déjà servi dans Moulin Rouge.
Exactement. On a des reprises de U2 par exemple, repris par Jack White des White Stripes, donc du U2, tu vois. Et tu as une scène, c'est un peu le cœur du film. T'as une grande scène où c'est une grande fête organisée chez Gatsby. Et là, la musique c'est génial. T'as un mélange de Jay-Z, tu sais pas d'où ça sort, c'est remixé, et ça le fait super bien. Donc tu les vois, ils sont
là. Will.i.am dans le fond qui est en train de scratcher. Ouais, c'est gramophone.
C'est exactement ça. Tu t'attends à le voir alors qu'on est en 1922. Ouais. Ils sont habillés super. Alors c'est excentrique, c'est très riche et tout. Et là tu les vois danser sur du Will.i.am. Bon, pourquoi pas. Et ça passe. Et c'est génial. Et ça le fait. Bah, moi, c'est pas le genre de musique que j'écoute forcément. Mais voilà, là pour le coup, c'est vraiment très réussi.
Ça passait quoi.
Ah ouais, grave. Voilà. Donc on a les personnages. Moi, je les trouve un petit peu. Pas assez charismatique à mon goût, un petit peu trop cliché et on a un Nick très effacé alors que c'est quand même le personnage qu'on voit le plus dans le film. On a Leonardo DiCaprio qui est enfermé à nouveau dans ce rôle du mec très classe mais à l'extérieur, mais à l'intérieur qui est pourri en fait parce qu'il a des problèmes psychologiques, il est mal dans sa peau et
je crois qu'il demande vraiment ça depuis 10 ans.
Et en fait c'est vraiment le personnage qu'on a dans Aviator par exemple, voilà, on le retrouve exactement.
Ou dans le dernier Tarantino
ou dans le Django, voilà, il est très propre sur lui avec la gomina, tu vois. Très classe, mais à l'intérieur, voilà, il est complètement, il a un pet au casque. Donc voilà, donc moi, j'en ai un peu marre de voir Leonardo DiCaprio là-dedans. Il le fait très bien, mais c'est vrai que c'était la énième fois qu'on le voyait comme ça. Alors il joue avec son ami Toby Maguire parce qu'ils sont amis depuis leur jeune enfance. Ils voulaient faire un film ensemble depuis longtemps, donc là c'était l'occasion. Moi, j'ai redécouvert cet acteur en fait, Toby, que je connaissais malheureusement que de Spider-Man et j'avais pas spécialement apprécié. Là, il m'a vraiment étonné. Ouais. Donc on a un super jeu d'acteur, même si le personnage est écrit de cette façon, donc un petit peu effacé, discret, mais ça lui va bien. Voilà, c'est un personnage physiquement, il est un peu voilà, maigrichon, petit, ça passe très bien. Et puis voilà, un dernier reproche, c'est qu'il dure plus de 2 heures et je pense que c'est un petit peu long pour ce qui a été, voilà, il y a des longueurs dans ce film. Après Je pense que ça va plaît énormément aux demoiselles. Voilà, les filles adorent. Il y a une histoire d'amour. Il y a plusieurs histoires d'amour. En fait, on va suivre au fil du film le mari qui trompe sa femme, l'homme qui veut conquérir la femme et Nick Carraway qui est un jeune célibataire qui va osciller entre plusieurs personnes. Donc voilà, c'est vraiment une histoire d'amour mélodramatique. Je pense que les filles vont adorer, les mecs un petit peu moins, mais il est à voir, pas en 3D, surtout pas en 3D.
Comme d'hab, hein, on a l'habitude.
Ouais, et en VO, voilà, donc la VO.
Comme d'habitude, en VO, pas en 3D.
Donc voilà ce que je peux dire sur Gatsby le Magnifique, actuellement au cinéma. Alors je n'ai pas lu le livre donc j'ai entendu évidemment tout le monde, oui le livre est plus c'est mieux, yeah. Voilà, il y a plus de choses à dire, l'amour, l'histoire d'amour est mieux retranscrite, bon voilà, donc
à l'occasion, voilà, peut-être lire le livre. Mais le film, voilà, disons que si vous le voyez à la télé, ça ira.
D'accord.
En 3D.
Ok, je crois qu'il y a eu. Il y a au moins un film avec qui a été fait dans les années 30 de Gatsby le Magnifique. Je sais plus,
non, non, 50, hein. non.
Oh, ça m'apprendra à travailler sans notes, voilà, quand je suis claqué.
Non, il y a la version qui date, je crois, de fin des années 70, début 80, qui a été tournée en noir et blanc d'ailleurs. Hein, à l'époque, c'était relativement rare, on va dire, quoi, et qui avait pas trop bien marché. Hein, ça avait été un flop quand même, quoi. Alors qu'il y avait une distribution assez bon. Moi, c'est pareil, j'ai pas pris de notes. Il y avait Richard Gere dedans à l'époque, au sommet de sa gloire. Enfin bon, il y avait vraiment des top acteurs, top actrices, sur une casting d'enfer. Non, c'est mon téléphone, vous en faites pas.
Ouais, je sais pas d'où ça vient.
Non, mais voilà, quoi. C'est juste pour me rappeler que dans 10 minutes, il faut que
on envoie. Non. Donc il y a plusieurs adaptations. Il y a un film en 1926 d'Herbert Brennan. Il y en a en 1949 d'Eliot Nugent. Et effectivement, il y a la version de 1974 de Jacques Clayton avec Robert Redford.
Et Mia Farrow.
Donc je savais bien qu'il y avait une version 1949 que j'ai vue sur TCM. Hein, il me semblait. Ah. On a le temps de la télé ou
ouais,
tu as le machin amené au rameur au plus.
Non, bah, il reste 10 minutes alors on va le faire vite.
De toute façon
fait,
la guerre on est en cru. Alors, ouais. Vas-y.
Allez, tout d'abord la série qui remplace Barnaby sur la 3 le dimanche soir. Et ça peut être une bonne surprise, je pense. Ça s'appelle Friends Fisher's Murder Mysteries en version originale, en version française. Je sais pas ce que ça donne. Enfin, c'est tiré des romans de Kerry Greenwood. Alors c'est australien. La série est australienne. L'original est australien aussi. Ça c'est le répondeur qui est en train de sonner. Kerry Greenwood qui a quand même torché 19 romans. Hein, sur Fried Fisher et dont le premier qui s'appelle Cocaine Blues, c'est d'ailleurs le titre de cet épisode, du premier épisode qui sera diffusé demain soir sur François à partir de 20h40. Ça a été diffusé, c'est très récent comme série, ça a été diffusé l'année dernière par ABC One, une chaîne australienne. Voilà.
En français ça donnera Miss Fisher Enquête.
Ouais, Miss Fisher Enquête, voilà, c'est ça quoi. Sinon il y a la deuxième saison de Homeland qui démarre jeudi prochain sur Canal Plus à 20h55 et en même temps, à 5 minutes près, la série originale qui a inspiré Homeland, la série israélienne, A Tout Film, qui est diffusée sur Arte, dont ce sont jeudi prochain les deux derniers épisodes.
Ah. Hein, Alain Corcos a fait un excellent billet dans Arrêt sur Image sur le titre de la série israélienne. Vous savez, Homeland, dans la version américaine, le E est renversé. Oui. Dans la série israélienne, l'avant-dernière lettre est renversée. Il y a une avant-dernière lettre qui est renversée pour faire une autre lettre. Pour faire le titre et qui donne bien l'idée justement de ce retournement.
D'accord.
C'est assez intéressant, sachant que Homeland, la première série, j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié l'idée de l'enquêtrice héroïne complètement clamsée par ses troubles psychologiques et par les médicaments qu'elle prend. En même temps, le décalage, on ne sait plus trop. Vraiment, par moments, ils aiment bien tirer par le jeu. Et c'est pas lourdingue, contrairement à Scandale, qui est passé par la suite.
Je savais qu'il allait en parler.
Je l'ai trouvé un petit peu lourdingue. C'est plaisant, mais malheureusement, c'est un peu tiré. Quoi.
Allez, bon, on va faire dans le moins lourdingue avec les films, quelques films durant cette semaine. Alors ce soir, si vous l'avez jamais vu, si tu l'as, regardez-le, ça vaut le coup. Alors il a différents titres, ce film. C'est un pastiche, en fait, de la télé américaine. Une journée de télé américaine. Ça a été réalisé par John Landis. Mais pas que. Il y avait d'autres réalisateurs. Enfin, il y a que lui qui est crédité. En 77, ça s'appelle Hamburger Film Sandwich. Plusieurs sketchs comme ça, mais qui en fait sont, si tu te fous devant une, les auteurs ont imaginé quelqu'un qui se fout devant une télé depuis le matin jusqu'au soir, et puis le mec il zappe et tout, donc il a tombé sur des programmes complètement porte-à-voix qui ont rien à voir les uns avec les autres et tout. C'est comme si maintenant on zappait sur notre télé, et puis qu'on tombait
La roue de la fortune.
Roue de la fortune, et après t'as un truc de bien-être, ensuite t'as une émission de cuisine, ensuite tu zappes encore, t'as un polar violent. Enfin bon, voilà.
Faut dire que la traduction est un peu foutraque, mais le nom originel c'est The Kentucky Fried Movie.
Ouais.
À l'époque, et à l'époque, il n'y avait pas la franchise en France.
et c'est également c'est un film qui est également nommé des fois The Tube, tout simplement quoi. Hein, pour le tube catégorie bien sûr. Alors c'est sur Ciné Plus Club ce soir à 22h45. Sinon sur TCM ce soir il y a également À l'abordage de George Sherman. Alors c'est un Errol Flynn, bon on va dire Errol Flynn qui est producteur également du film, hein, ça, on est en 52, surfe un petit peu sur ce qui a fait sa gloire, hein, à savoir les films de corsaires, de pirates, hein, Captain Blood et tout ça quoi. Mais là bon bah ok, bon hein, il est déjà un petit peu en bout de course le bonhomme, mais ça reste quand même tout à fait regardable avec Errol Flynn, Maureen O'Hara et Anthony Quinn. Demain, le Full Frontal TF1 France 2, c'est soit Dubourg Pif avec Expendable, bien sûr, sur TF1, ou alors l'argument pseudo intello bobo de Sex and the City sur France 2. Vous avez le choix donc. Sinon, bah allez sur Arte qui continue à nous diffuser du Star Trek à fond les manettes. On en est à demain soir. Star Trek 4, celui qui a été réalisé par Leonard Nimoy, Spock, donc c'est celui avec les baleines. Hein.
Puis, c'est la parodie, non? Celui qui se passe dans les années 80.
Non,
c'est le 5.
Non. Et après, il y a le 5, justement. Juste après le 4, diffusé sur Arte demain soir, qui a été réalisé par Captain Kirk.
Et ouais.
William Shatner.
Ou là, qui est une immense parodie qui a hurlé de rire.
Ouais, on rigole un petit peu, mais enfin, connaissant le personnage Shatner en tant que lui-même, quoi, c'est pas du tout étonnant, puisqu'il a également tourné dans Free Enterprise, hein, le film de, je me rappelle pas qui, mais bon, qui est aussi une bonne parodie, quoi. Où, bon,
il fait de la SF parodique aussi, à titre pas personnel. Hein.
Alors sinon, demain sur FX à 21h, Elephant Man de David Lynch. Où le personnage ou l'acteur qui interprète le personnage principal, c'est le seul du casting qui a pas connu, ben on va dire, la renommée par la suite à Freddy Jones. Vous connaissez? Bah non. Alors que John Hurt, Anthony Hopkins, bon, voilà, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Ou sinon,
pas pour les femmes enceintes, hein, quand même, ce film, attention.
Ou sinon, sur TCM,
les hommes enceintes, d'ailleurs.
Un film qui peut être recommandé aux femmes enceintes, vu qu'il y a pratiquement que des mecs dedans, c'est Wild Bunch de Peckinpah, donc, la horde sauvage.
Bon. Ok, hein.
Lundi, nous avons sur Arte, on continue, Star Trek 6. De Nicolas Meyer, suivi de.
On sent qu'il y en a qui va sortir bientôt au cinéma.
Suivi de, à 22h35, de First Contact. We will assimilate you, les Borg. Avec, alors là, c'est déjà Next Generation, hein, Patrick Stewart, Brent Spiner, c'est Data. LeVar Burton, il est pas à Kunta quitté dans le film, quoi. Il fait autre chose, bien sûr. C'est celui qui a les lunettes comme ça, quoi. Il voit rien, quoi. Mais avec ses lunettes, il voit tout quand même, quoi. Sur RTL 9 lundi, Hors Limite de Andrei Barkoviak, Anthony Anderson avec Steven Seagal avec DMX, ça fait quelque chose quand même, hein. Et en plus on nous rajoute Jill Lancy, la nana de Preuve à l'appui, et Isaiah Washington, donc ça va, c'est encore pas trop.
C'est le film avec le satellite qui voit tout partout, c'est pas ça?
J'ai pas le temps de bûcher mon Seagalogy, donc je peux pas te dire quoi.
Ouais.
Plutôt ton Star Trek, on a une
sorte
spéciale
de Minority Report.
Ouais.
En fait,
mardi, on a sur Comédie Hot Fuzz.
Excellent.
Ça, quand même, ça vaut son pesant de cacahuètes. Surtout la. Alors moi, ce qui m'a troué, c'est quand même la performance de Timothy Dalton dans ce film.
Ah oui.
Là, il est. Déjà, il était excellent dans les James Bond, quoi. Et c'était le meilleur James Bond avant Daniel Craig, on va dire.
Oula, il y a des bas là. Il y a des bas.
Et je parle bien sûr de l'après Sean Connery. Hein.
Bien sûr. Il y a moyen d'avoir des bas.
Attendez, il y a Madame du Sport qui écoute tant. Même en podcast.
Christine, premier juré, Star Trek la semaine prochaine.
Allez.
Ciné plus tard, toujours mardi prochain, on propose American Graffiti de George Lucas. Le meilleur George Lucas pour moi.
Et avec dedans, il y a
Ron Howard.
Il y a Harrison Ford dedans, c'est son. C'était la première fois qu'il jouait.
Ouais, mais enfin, il a un rôle mineur, on va dire.
Ouais,
quoi,
mais c'était.
Il était encore charpentier à l'époque.
C'est surtout Ron Howard et Richard Dreyfuss. Oui, bien sûr. Ce sont les personnages principaux dans le film, quoi. Ou sinon, sur TCM, pas vraiment un polar, c'est plutôt un film noir, quoi, de Nick Rey qui s'appelle Le Violent. avec Humphrey Bogart et Gloria Graham, qui est vraiment très très intéressant, quoi. Sur OCS Novo, toujours mardi prochain, Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse, un excellent Vincente Minnelli, avec Glenn Ford, Ingrid Tulin, Charles Boyer, hein, où on retranscrit l'histoire des quatre cavaliers de l'Apocalypse dans des familles allemandes qui s'entre-déchirent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est vachement bien foutu, c'est Minnelli, hein. Bon bah ok, hein. Même si là en 62 il est déjà un petit peu en descente, on va dire en déclin par rapport à sa carrière, hein, par rapport à tous les films qui a sorti, Les Ensorcelés, tous ces chefs-d'œuvre du cinéma, quoi. Ben là quand même c'est un bon film. Mercredi sur Arte, un film de Michel Gondry, Soyez sympa, Rebond, Rembobiné,
avec
Mos Def, Jack Black.
C'est en train d'être méchant, me dit que John Hurt jouait le rôle titre tout à l'heure. Je sais pas de quoi, mais
De David Lynch, de Elephant Man.
Ouais.
Non, Freddy Jones, c'est le Toubib. C'est le Toubib, me semble-t-il, là, qui est avec Anthony Hopkins, quoi. Sinon, il y a un documentaire excellent à suivre à tout prix sur mercredi sur Arte à 22h25. Après le Gondry, c'est Tout sur mon père, Max Linder. L'histoire de Max Linder, si vous savez pas qui c'est quand même un type qui a influencé absolument tous les comiques depuis le début du siècle, Charlie Chaplin compris. D'accord.
Ah oui,
il est né du côté de Bordeaux et il a commencé à faire des petits films parce qu'il est rentré chez Pathé en 1905. Il a fait des petits films qui se sont fait bien remarquer. Il est parti à Hollywood à partir de 1909. Il a fait une flopée de films. Il a tourné environ 300-400 films. Ouais. Enfin, c'était des moyens, des courts métrages, hein, des muets, quoi. Et là, avec son personnage qui s'appelle Max d'ailleurs, hein, qui se retrouve dans des situations complètement abracadabrantes et très très comiques. Et donc c'est vraiment le type, là j'insiste, hein, et c'est prouvé historiquement, tous les gens l'ont dit, hein, Charlie Chaplin en tête, Pierre Etex, plein de gens quoi ont dit mon inspiration au départ pour le comique, hein, c'est Max Linder. Et d'ailleurs, le plus grand cinéma d'Europe qui est à Paris s'appelle le Max Linder Panorama, le plus grand écran d'Europe, quoi, je crois, c'est ça, qui est dans le 13e, si je ne m'abuse, ou à la frontière du 13e.
Alors, dis encore une connerie, je te souviens, c'est une ancienne parisienne, là, qui
doit. Non, mais justement, là, j'ai un copain qui habitait juste à côté, donc, je pense.
C'est vrai,
bon. Ok. Sur FX, toujours mercredi, Rosemary's Babies de Polanski, suivi de Répulsion du même Polanski, donc deux excellents Polanski.
Ah oui.
Ça, c'est quand même pas mal. Et on passe tout de suite à jeudi avec, sur NT1,
13h33.
Star Trek. Mais là, il s'agit du...
Le combien?
Le premier.
Le
nouveau.
Premier.
Ah, le reboot.
J.J. Abrams, quoi. Ou alors, l'excellente biographie de Malcolm X par Spike Lee, c'est sur TCM à partir de 20h40. Mal, ouais. Vendredi, sur Ciné Plus Premier, La Défense Lincoln, avec Matthew McConaughey dans le rôle de l'avocat Mickey Haller et Ryan Phillippe dans le rôle de l'accusé innocent qui est pas coupable mais qui est coupable quand même, on sait pas s'il est coupable. C'est bien entendu du Michael Connelly et cette version cinématographique est tout à fait respectable, hein. Et Matthew McConaughey, c'est Matthew McConaughey, merde, quoi.
T'as dit jeudi sur TMC pour le
TCM,
TCM,
pas TMC, quoi. TCM.
Non, parce que je viens de regarder TMC. Y a
non. Non, laisse tomber.
Ok.
Ils ont allez, vite 4. Fait, je vais être en retard. Ciné Plus Tard, toujours vendredi prochain, vous propose à 20h45 le Cavalier électrique de Ciné Polak avec Jane Fonda, Robert Redford, Willie Nelson. Que des gauchistes. Et pourtant, c'est un film d'Hollywood.
Ça va pas.
Le film. Non, parce qu'en plus, le film a été sorti en 79, soit un an ou deux ans après la catastrophe Three Mile Island, où une certaine Jane Fonda s'était montrée vraiment très, très gauchiste, on va dire. Ça lui a coûté sa carrière, hein, faut dire. Quoi, parce qu'à part ce film, après, bon, au cinéma, laisse tomber, quoi. Bon, elle s'est rattrapée avec l'aérobic, de toute façon. Et un mariage fructueux avec le créateur de CNN, Ted Turner. Bon, ils sont divorcés depuis une longue année, mais bon.
On va pas la pleurer. Hein.
Ok. Non. Sinon, sur Ciné Plus Club, un excellent film, on va dire, fantastique, on va dire, La Compagnie des Loups de Neil Jordan. Je crois que c'est son premier ou son second, quoi. Et vraiment, c'est un truc pas mal. Hein. Truc onirique, une version onirique du Chaperon Rouge, quoi, tu vois, un truc. Mais alors vraiment, ça dépote quand même, hein, c'est pas pour les gamins, quoi, hein, vraiment, quoi, avec Sarah Patterson, Angela entre guillemets arabesque Lansbury et Stephen Ree sur Ciné Plus Classique. Alors ça c'est un film, si vous voulez vous pisser dessus de rire, c'est un film du classique du cinéma italien des années 60, Une poule, un train et quelques monstres de Dino Risi. Alors c'est un film à sketch mais dans lequel Nino Manfredi interprète différents personnages mais qui ont chaque fois un problème avec les nanas, enfin un problème, c'est-à-dire ils ont des désirs mais bon, l'ensemble du film essaie de rassembler l'ensemble des désirs qu'un homme pourrait avoir par rapport à une femme, quoi. Alors ça peut être un truc très cool ou ça peut être un plus violent, enfin bon, mais bon, c'est réalisé selon la veine satirique de Dino Risi avec Manfredi, un de ses acteurs fétiches, un bon pote de conservatoire de Marcello Mastroianni et la très très belle Silvia Cosina qu'on a surtout vu dans Les Poplomes parce que bon bah ça permettait de l'avoir un peu on va dire
ouais
moulée,
voilà,
hein. Et je termine avec un
oui dépêche-toi
un excellent quoi, film de science-fiction qui est pas trop connu qui s'appelle Wolfen de Michael Wadley en 81 avec Albert Finney, Gregory Hines et Diane Venora, quoi, l'histoire de loup-garou mais moderne, quoi. J'en dirai pas plus, mais ça vaut le coup. Et la facture de ce film est quand même assez, était vraiment révolutionnaire pour l'époque, hein. Un traitement de l'image et tout, quoi, des fonds, des trucs comme ça, filtres, des filtres de lumière, de couleurs. C'est un film à voir quand même, quoi. Et bon, bah, l'histoire se tient en plus, quoi. Donc, et je crois qu'elle finit même pas bien, quoi, me semble-t-il, autant que je me souvienne.
Je crois qu'on arrive à la fin, oui, et que tu dois y aller d'ailleurs. Téléphone, je parie. Oui, vas-y. Peux-tu faire le résumé, s'il te plaît, Morgan, pour dépêche-toi, Luce, ça sonne.
Aujourd'hui, vous avez pu entendre Oui, on a parlé prise d'otage. On a parlé du Gatsby, du magnifique. On a parlé TV. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Il me prend au dépourvu à chaque fois. Il m'exaspère quand il fait ça.
Bref, tout cela, vous pouvez le retrouver en intégralité.
Et plein d'avions avec des courriers.
Vous pouvez le retrouver en intégralité et posez vos questions à l'équipe, n'hésitez pas, donnez-nous la pêche, l'envie et surtout le courrier pour Morgan pour venir nous assommer à l'antenne. C'est facile, il suffit d'aller sur le site web suppléantweekend.fr, suppléantweekend.fr sans accent ni tiré.
Reviens Thomas pour faire les résumés.
Ouais, s'il te plaît, ce serait plus sympa. La semaine prochaine, je pense qu'on va faire une spéciale Star Trek pour le fun.
Space.
Ultimate. Et comme ça sera pour préparer la suite.
Exactement.
Tiens, allons-y.
Gaiement,
on va voir ça. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Le soleil est de retour et du sport est déjà parti. Et ma foi, la pluie va peut-être cesser.
Oui.
Enfin, on espère. Je tiens à signaler qu'on est en alerte canicule niveau 1 depuis hier. Et non, ça n'est pas une blague.
C'est vrai.
C'est le 1er juin, ils le mettent. J'adore ces automatismes bien débiles, là. Il n'y a pas à dire.
On est en alerte orange. Et nous coûte le plan canicule niveau 1.
Oh là là, c'est plus que c'était, mais ça.
Les vieux ne sont plus assez solides, qu'est-ce que tu veux? Ils ont voulu faire les cons et les gauchistes devant les CRS. Préparer leur disparition.
C'était le point météo.
Radio FMR, merci à vous. Ciao, bye bye. Rendez-vous la semaine prochaine, prochain programme 15h.
Ciao.
Et j'ai oublié de remercier la semaine dernière toute l'équipe du THSF, de Theta Lab, de Mixar Miris, les équipes de Radio FMR, Pascal Mettel qui est passé pour l'équipement, Olivier Hag qui a assuré la réalisation pour le supplément week-end. Et aujourd'hui, c'était l'émission numéro
350.
Et ben voilà, oui. Ciao, bye bye.
découvrir les ateliers Bakélite le samedi 8 juin de 9h30 à 2h du matin. C'est dans les spacieux ateliers du Théâtre Garonne que se déroulera cet événement global et solide. Les ateliers Bakélite s'articuleront autour d'une série d'interventions créatives et sonores dans un lieu repensé par les scénographes de Bakélite. La journée anniversaire se déroulera en deux temps avec une programmation de jour et une programmation de soirée. Un événement complet avec tout au long de la journée et ce à partir de 9h30, des conférences ponctuées de performances artistiques. On se dirigera ensuite vers une soirée avec deux DJ sets et un live instrumental pour se laisser bercer et emporter par l'univers jazz, soul et house des artistes programmés aux ateliers Bakélite. Retrouvez la programmation détaillée de cet événement global et solide sur bklt.fr. Les ateliers Bakélite, le 8 juin, aux ateliers du Théâtre Garonne. Rive gauche, métro Saint-Cyprien.
These fucking kids got no brain!